Europe 1.
Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve sur Europe 1 avec nos invités. Nous sommes avec Anne-Charlène Mézina. Bonsoir.
Bonsoir.
Institutionnaliste avec Gilles Mantré, essayiste, président d'Electis. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bruno Judy de Paris Match qui arrive in extremis dans le studio.
Bonsoir.
Bonsoir, mon cher Bruno. On va parler de ce gouvernement. Donc 41 ministres autour d'Elisabeth Borne. Parité à peu près respectée. 21 hommes, 20 femmes. Mais seulement 5 femmes sur 16 ministres au poste de plein exercice. 6 femmes. 15 délégués et 9 femmes sur 10 secrétaires d'État. Donc voilà, c'est la parité, mais pas forcément sur des postes très importants. On va juste écouter Olivier Véran, qui est le nouveau porte-parole de ce gouvernement, qui explique qu'Elisabeth Borne, mercredi, ne sollicitera pas le vote de confiance de l'Assemblée nationale. On l'écoute.
La Première ministre ne sollicitera pas la confiance des parlementaires. Il y aura une discussion, une déclaration de politique générale suivie de débats à l'Assemblée nationale mercredi. La confiance ne se décrète pas a priori. Elle se construit patiemment, texte après texte. Cette majorité est dite relative, c'est-à-dire qu'on va travailler texte par texte. La main, elle est tendue. Nous avons fait un décompte a priori du nombre de voix que la Première ministre aurait été sûre de recueillir en cas de vote de confiance. Nous ne sommes pas certains que les conditions de cette confiance a priori auraient été réunies. C'est pourquoi, je le redis, nous travaillerons texte par texte. Il ne faut pas confondre majorité pour s'opposer et majorité pour gouverner. Il est moins difficile de mettre d'accord des oppositions pour empêcher le gouvernement d'avancer que de mettre d'accord des oppositions pour proposer ensemble des textes de loi.
Voilà pour Olivier Véran et ce vote de confiance, Anne-Charlène Bézina. Est-ce que c'est véritablement un passage obligé de notre Constitution ou est-ce que c'est juste un usage en vérité ?
Alors tristement, notre Constitution emploie bien l'impératif. Donc le gouvernement présente la confiance à partir du moment où il entre en poste. Néanmoins, le premier à rompre la tradition, c'est Georges Pompidou dès 1966 qui dit je présente ou je ne présente pas, c'est suivant mon désir. Donc depuis, la coutume s'est installée d'en faire un choix. Mais ça n'est pas ce dont dispose la Constitution et c'est surtout quelque chose qui politiquement est un peu risqué de ne pas présenter la confiance parce que pour tous les gouvernements qui ne l'ont pas fait, je pense notamment à Michel Rocard en 88, eh bien ça a été reculé pour mieux sauter parce que soit sur une déclaration de politique générale plus tard, soit sur d'autres textes avec un 49-3, eh bien le gouvernement est quand même un peu obligé d'arriver à rassembler autour de lui pour notamment montrer sa capacité de gouverner parfois en force, hein, il faut le dire, et si on ne présente pas la confiance au début, ça veut dire qu'on est en situation de faiblesse. Donc là, on a une situation où la majorité présidentielle n'est pas la majorité gouvernementale et n'est pas la majorité parlementaire. Donc du coup, les trois vont quand même être dans une situation un peu compliquée pour s'entendre.
Aveu de faiblesse pour vous, Gilles Mantré, ce non-vote de confiance d'Elisabeth Borne ?
Ils le sont objectivement en situation de faiblesse. Donc finalement, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix du tout, d'ailleurs. C'est ce qu'a dit Olivier Véran. On a compté les voix, on a vu qu'on ne les avait pas. Donc on ne va pas solliciter la confiance. Et c'est effectivement plus improbable que l'Assemblée se rassemble sur une motion de censure déposée par la NUP que sur la confiance du gouvernement. Donc on voit bien que il n'y avait pas longtemps à hésiter. Non, ce qu'on peut relever, c'est que finalement la formule est élégante hein, d'Olivier Véran. La confiance ne se décrète pas, elle se construit, c'est très bien.
C'est très mignon.
Mais c'est intéressant d'entendre ça, alors que juste avant, on explique que la légitimité, en revanche, elle est là. Ça, il y a eu la présidentielle, la législative, on a une légitimité. Voilà, clair, mais en revanche la confiance, non. Bon, il y a une petite contradiction.
Bruno Jeudi, c'est un détail ou pas, ce vote de confiance, cette histoire
jamais,
de vote de
c'est
confiance.
Jamais un détail dans notre régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. En tous les cas, on redécouvre qu'il est aussi en partie parlementaire, tout simplement parce qu'une partie du pouvoir, ces dernières semaines, a traversé la Seine, est passé de l'Élysée au Palais Bourbon, et on n'a jamais regardé autant, en tous les cas depuis au moins 25 ans, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et on va beaucoup le regarder dans les semaines qui viennent, dès cet été, avec cette session qui va durer longtemps d'ailleurs, qui va largement déborder sur le mois d'août, entre la loi largement, pouvoir d'achat, oui, largement, entre le projet de loi pouvoir d'achat et le collectif budgétaire qui suivra derrière, et tout ça va amener les députés à ferrailler une bonne partie de l'été. Je pense que ce gouvernement traduit, et les premiers propos du président en début de Conseil des ministres, traduit l'idée qu'il s'agissait d'abord de construire une équipe prête à ferrailler dans la tranchée, plutôt que il n'a pas réussi au fond à trouver des prises de guerre. On voit bien que sa force d'activité n'est plus celle qu'il avait en 2017 ou 2020 lorsqu'il a constitué l'équipe avec Jean Castex, et qu'il en était réduit à ouvrir au fond à l'intérieur de la majorité, consolider son socle politique en deux. en offrant 3 postes de plus à François Bayrou, 1 et plus une promotion à Édouard Philippe, qui sont ses alliés. Il a besoin de ses alliés, surtout qu'on a entendu ces dernières semaines François Bayrou.
Entendre sa petite musique. Hein.
Absolument. Donc il fallait absolument, j'allais dire, que tout le monde s'accroche au bastingage parce que la traversée de la Seine ne va pas être très tranquille.
Anne-Charlène Mazina sur ce nouveau gouvernement. Voilà. Bruno Le Maire reste numéro 2. Gérald Darmanin renforcé, ministère élargi aux Outre-mer, ce qui fait beaucoup réagir d'ailleurs les ultramarins. Catherine Colonna, Éric Dupond-Moretti qui reste, Sébastien Lecornu aux armées. Voilà, Pape Ndiaye à l'éducation nationale. Tout change et rien ne change en réalité.
On a aussi des baisses de rang protocolaire pour l'environnement, par exemple, qui était censée être la priorité de ce nouveau quinquennat. Et on voit que finalement, la priorité a l'air de changer un petit peu, puisque aussi, on avait un grand ministère consolidé. Aujourd'hui, bon, on le donne à une personnalité qui n'est pas particulièrement de premier plan dans la Macronie. Oui, c'est difficile aussi de composer un borne 2 avec un borne 1, avec des législatives au milieu qui ne sont pas favorables, mais des partis qui ne veulent pas ouvrir la majorité. Donc, il n'y avait pas vraiment de grande marge de manœuvre de la part du Premier ministre et du Président, puisque l'essentiel, c'était finalement de limiter la casse, hein, en quelque sorte. À partir du moment où vous avez des partis qui n'arrivent pas à se coaliser et qui ne veulent pas entrer au gouvernement, qui veulent finalement garder leurs acquis parlementaires, eh bien, la séduction parlementaire, elle était forcément limitée à la coalition de majorité. On aurait peut-être pu, par contre, jouer la carte de l'opinion. Et ça, c'est vrai que, par contre, on n'a pas d'effet wow, on n'a pas eu...
Il peut plus jouer
la carte de l'opinion. Voilà, peut-être que c'est lui qui a moins de capacité à susciter.
Là, on mesure la baisse de son attractivité. Et au fond, il a replâtré et recyclé. Mmh. Il a bouché des trous parce qu'il a eu des pertes législatives, donc on a remplacé des modems par des modems, exactement, des renaissances par des renaissances, on essaie de consolider le dispositif politique, et puis on recycle des anciens ministres, ça s'en va et ça revient, comme dirait la chanson, pour Marlène Schiappa, de troisième ou quatrième portefeuille en 6 ans, Madame Darrieussecq, Madame El Haïry, donc tout ça, je pense que tout ça, ça passe au-dessus de la tête des Français, c'est pas ça qui les intéresse aujourd'hui.
Non, c'est la loi sur le pouvoir d'achat,
ça va être très vite oublié, surtout qu'il n'y a pas de personnalité politique de premier rang, et il a surtout consolidé ses numéros 2 et numéro 3, Bruno Le Maire, qui est à la tête maintenant d'un mini-gouvernement, et puis Gérald Darmanin, qui récupère l'outre-mer. Je crois que ça faisait 15 ans que c'était pas arrivé.
Gilles Mintré, sur le gouvernement.
Oui, moi je pense qu'il a remacronisé ou surmacronisé son gouvernement. Il est revenu un peu aux fondamentaux de 2017, c'est-à-dire à la fois sa garde rapprochée, on voit revenir Marlène Schiappa, qui pourtant sur BFM vendredi disait encore si je suis prêt à revenir, mais s'il m'appelle c'est que vraiment je suis en fin de liste. Sarah El Haïry, et puis on voit aussi revenir des ministres de la société civile, hein, c'était le coup de 2017, hein, quand on a François Braun,
pas le même relief, hein.
Non, c'est pas le même relief, mais c'est l'idée de voilà, on confie à des professionnels, même Laurence Boone, enfin voilà, on prend des gens de la société civile reconnus pour leur mérite, donc on rejoue le coup de 2017, mais sauf qu'on n'est pas en 2017, sauf qu'on est en 2022, qui s'est passé, qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Et je pense que si ce mot de vote de confiance résonne tant dans l'actualité, pourquoi est-ce qu'on en parle alors que ce n'est qu'une question finalement de procédure ? C'est que ce mot confiance, ça interpelle tout le monde, tous les Français. Parce que quel est le problème de ce gouvernement ? C'est qu'il n'a pas la confiance, il n'a plus la confiance. Et que de manière générale, au-delà d'Emmanuel Macron, il y a un problème de la confiance par rapport aux hommes politiques, à la classe politique, aux femmes politiques. Et que refaire le même coup que 2017 alors que les promesses n'ont pas été tenues, ce n'est pas rajouter de la confiance.
54% quasiment d'abstention au second tour des législatives. Petite pause, on s'en retrouve tous les quatre dans un instant. On parlera de l'exfiltration de Damien Abad, visé par une plainte pour tentative de viol. À tout de suite.